Bonjour à tous, chers auditeurs, ou bonsoir, selon le moment de la journée où vous en êtes en écoutant ce podcast. Bienvenue sur la 8e émission d'Original Sound Bloggers. Donc, je suis Poulpi Blast, vous commencez à le savoir maintenant, parce que vous nous écoutez peut-être depuis 8 mois. Nous sommes, comme chaque mois, en compagnie d'Onink. Comment ça va, Onink, ce mois-ci ?
Yo, salut tout le monde. Bah, écoute, oui, ça va, mais... Et toi, est-ce que ça va? J'ai remarqué qu'on ne demandait jamais si t'allais bien, c'est vraiment pas sympa de notre part.
Mais oui, non, moi ça va tous les mois. Hein. Nickel, moi je suis là, je vous parle, c'est cool, quoi. On s'amuse bien.
Et heureusement que t'es là pour le montage.
Hein. Ça. Toujours également Victor avec nous, comment ça va Victor?
Bonjour, toujours pareil. Je parlerai un peu moins cette fois-ci parce que j'ai essayé de me contenir et j'ai pas trouvé beaucoup de jeux à mettre. Ce sera mes collègues qui parleront.
Voilà, donc Victor, Onink et moi-même, les trois, le trio d'OSB, toujours aussi soudé et toujours présent. Et ce mois-ci, il faut l'admettre, on a toujours eu des invités quand même qui étaient pas dégueux, hein, on a quand même eu de la crème dans les invités. Mais là, on touche le top du top, attention.
Voilà, ça flatte.
Le premier blogueur musical de Gameblog, et c'est juste voilà, celui qui est le plus en haut de tout le blogueur musical, ou blogueur musicaux plutôt. Il s'appelle Sirocco. Comment ça va, Sirocco?
Du coup, ça va bien, ça va bien. Le premier blogueur musical qui n'y connaît rien à la musique.
Et pourtant, tu animes, ou tu as animé, on espère que ça va continuer, un podcast qui s'appelait, je crois, Musique Maestro, avec des amis toulousains.
Ah oui, oui, on doit en refaire bientôt, normalement.
Ah voilà, bon, je dis pas que des conneries non plus, ça voilà, va.
Non, on va. Là, c'était les vacances, on était bien, on en refait bientôt, il n'y a pas de souci. Vous serez informés.
Et donc maintenant, tu te spécialises un peu plus peut-être dans le speedrun, notamment avec A Link to the Past. Monsieur, moins de 2 heures en ligne, A Link to the Past.
Alors, ne me vexe pas, je suis pas encore passé sous les 2 heures. C'est un stade particulièrement difficile.
On espère voilà. Que tu y arriveras bientôt en tout cas. Et donc merci Sirocco d'avoir accepté notre invitation pour cette 8e émission consacrée au piano. Voilà, on a parlé de beaucoup de styles musicaux, de plusieurs instruments. On avait fait déjà le violon, on a fait l'électro. On a fait le rock, et donc là on voulait mettre l'accent sur cet instrument qui est très utilisé comme un peu partout dans la musique, et notamment dans la musique de jeu, puisqu'il y a beaucoup de musique classique, il y a beaucoup de moments nostalgiques.
Je précise qu'on parlera pas des Piano Collection, parce que sinon on n'aurait pas réussi à faire le tri, donc du coup je pense que les Piano Collection on les fera sur un autre podcast spécial Piano Collection, ce sera plus sympa je crois.
Ouais, peut-être un hors-série en 2014, allez savoir. Et donc vous l'entendez en fond depuis tout à l'heure, hein. On a commencé par un morceau culte un petit peu de piano dans le jeu vidéo avec un morceau de Kingdom Hearts, enfin là c'est la version de Kingdom Hearts 2, c'est le morceau d'introduction qui s'appelle Dearly Beloved, une musique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, tiens, de Yoko Shimomura, voilà, ça nous manquait, elle est revenue, vous allez voir qu'il n'y a pas qu'elle qui revient parmi nos habitués. Je crois que vous, Kingdom Hearts, les gars, bof, hein.
Ouais, enfin, disons que l'univers... j'ai jamais compris l'univers, j'ai jamais compris le principe de mettre du Final Fantasy avec du Disney. Donc du coup, ça m'a jamais intéressé, et puis volontairement, je me suis jamais plongé et fait l'effort d'aller voir plus loin que le design. Voilà, c'est pas le genre de jeu que j'ai envie de faire.
Je suis dans le même cas que toi, enfin, déjà que je suis pas trop un amateur de Disney, alors Disney à la sauce Nomura, enfin, c'est pas la peine.
Sirocco, non, toi tu l'as fait Kingdom Hearts?
Malheureusement, non, je sais que ça fait partie des jeux qu'il faut que je fasse un jour. En revanche, on peut déjà dire que Yoko Shimomura, si je me trompe pas, elle a composé aussi Xenoblade Chronicles.
Elle en a fait quelques morceaux, ouais, de Xenoblade.
Ouais, voilà, et que ça s'entend tout de suite quand on écoute Dearly Beloved. On reconnaît la patte quand même.
Disons qu'elle a ses instruments fétiches qui se retrouvent dans toutes ses musiques, on va dire.
Oui.
C'est vraiment une compositrice très sympa, qui a une vraie unité.
Kingdom Hearts, apparemment, je suis le seul à l'avoir fait, ou en tout cas aimé. Et effectivement, moi, c'est un jeu, pour le coup, qui m'a pas dérangé plus que ça, qui est Disney et Final Fantasy qui s'assemblent en même temps. D'autant plus que le côté Final Fantasy reste quand même assez lointain. Ouais, il y a quelques caméos de personnages, mais sinon, ça reste quand même très centré plus sur Disney, mais un Disney, voilà, la sauce RPG, action RPG. Et faut pas le voir comme un Disney que tu vas voir au cinéma, genre La Belle au Bois Dormant. C'est vraiment un action RPG, effectivement, bon, un peu cartoonisé, mais ça reste quand même un très très bon jeu. Voilà, avec le magicien, bon, en l'occurrence c'est Donald, le défenseur ça va être Dingo, vous ça va être plutôt attaquant. tous les codes de l'action RPG qui sont réunis pour en faire un bon jeu. Et donc avec ces musiques de Yoko Shimomura qui sont juste totalement exceptionnelles. Il y a plusieurs thèmes comme ça, donc Dearly Beloved qui est juste majestueux. Il y a le thème de Kairi, personnage féminin principal, qui est splendide également.
Il y a les réinterprétations des thèmes Disney qui sont très très sympas. Enfin, moi, je me souviens d'un thème d'Aladin, une réinterprétation d'un thème d'Aladin qui était superbe.
Enfin, voilà, Aladin, ouais, moi, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack qui m'a beaucoup marqué. Kingdom Hearts 2, il est sorti en 2006 sur PlayStation 2. Et il faut savoir que le jeu s'est vendu à 4 millions d'exemplaires à travers le monde. Le premier avait fait 5,8, donc c'est quand même un très gros succès. Et la grosse blague, c'est si vous allez sur le site de vgcharts.com, qui répertorie toutes les ventes de jeux vidéo. Ce site répertorie aussi Kingdom Hearts 3, qui n'est pas encore sorti, et qui annonce donc zéro vente, évidemment. Le plus drôle, c'est qu'il annonce sa sortie en 2020. Donc, si vous le savez pas, Kingdom Hearts 3 sortira en 2020, c'est VG Charts qui le dit.
Faudrait que j'aille voir la date de sortie de The Last Guardian, alors, sur ce site.
Et je vous propose qu'on s'éternise pas plus que ça sur Kingdom Hearts. On a déjà dit le plus gros et on va passer à un jeu qui est splendide, quoi, qui a peut-être relancé un peu la saga dont il est extrait, Super Mario Galaxy. Donc Super Mario Galaxy, sorti en 2007 sur Wii, 11,7 millions de ventes, c'est énorme, enfin ça reste un Mario, hein, donc ça se vend.
Donc, oui, mais ça se comprend.
Ouais, ça se comprend, c'est un jeu vraiment génial, des musiques de Mahito Yokota, une fois n'est pas coutume, d'habitude c'est Koji Kondo qui fait plutôt les Mario. Là on entend donc le thème de Space Junk Galaxy, qui est le thème de la galaxie un peu la plus spatiale du jeu, qui joue plus sur la pesanteur, les astéroïdes, tout ça. Qui pour nous parler de Mario Galaxy ?
Bah alors déjà le jeu il est juste génial. En jeu de plateforme 3D c'est ce qu'il y a de mieux je pense, quasiment. Et les musiques, il y a beaucoup de choses à dire parce que donc les musiques de Mario 64 étaient... donc forcément la qualité était un peu moindre, mais elles avaient beaucoup de variété, c'était très typé, on pense notamment à la musique des niveaux marins qui est très jolie, il y a des musiques plus toniques. Mario Sunshine, là c'était quasiment intégralement des musiques tournées vers l'ambiance maritime, balnéaire, tout ça. Et d'ailleurs ça se répétait un peu, et alors ce qui est bien avec Super Mario Galaxy, c'est que les musiques là, par contre, c'est l'orchestral, intégralement quasiment. Il y a quelques reprises par-ci par-là qui sont en plus de qualité, avec des nouveaux instruments, tout ça, et une musique très très vivante, qui met vraiment dans l'ambiance, et qui a un gros avantage par rapport aux musiques orchestrales symphoniques qu'on peut entendre aujourd'hui dans beaucoup de jeux, c'est qu'on se souvient des thèmes. Il y a une mélodie derrière qui est très reconnaissable, qui est comme pour tous les Mario d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien, c'est d'ailleurs un peu le mal de la génération, c'est les musiques qui sont certes très belles, mais qu'on a tendance à oublier parce qu'elles sont noyées. Il y a plusieurs mélodies qui se croisent et qui fait qu'on se souvient pas spécialement des thèmes.
Là, on va dire que les musiques sont pas spécialement affilées à des scènes particulières, du coup c'est très facile de les écouter en dehors. Et moi, donc Super Mario Galaxy, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, étant donné que c'était mon deuxième jeu Wii. Et les musiques, je pense que c'est un des seuls Mario où j'écoute les musiques souvent dehors, parce que ben le fait qu'elles soient en orchestral et puis qu'elles soient très indépendantes les rend très facilement écoutables en dehors. Un des jeux à faire obligatoirement sur la Wii, en plus il a baissé de prix, voilà.
Puis Super Mario Galaxy 2 est aussi bon sur tous les points, voire meilleur, donc n'hésitez pas non plus, avec très très bonne musique aussi.
Effectivement.
Et puis c'est un jeu qui est splendide aussi graphiquement. J'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont fait un truc aussi magnifique sur une Wii, mais bon.
Bah écoutez, plutôt que de parler des graphismes, là on va continuer à se délecter de la musique donc de Super Mario Galaxy, le thème de Space Junk Galaxy qu'on écoute tout de suite. À tout à l'heure. Thank you. De retour sur Original Soundbloggers 8ème épisode, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Sirocco et vous venez d'écouter donc Space Junk Galaxy, le thème du splendide jeu Super Mario Galaxy sur Wii. On va changer un peu d'ambiance, on va écouter une balade au piano assez triste maintenant. Un jeu indépendant de Facepalm Games, un nom magnifique, sorti sur PC en mai 2013, donc en mai dernier. Un jeu qui s'appelle The Swapper. Le titre du morceau c'est Récréation. C'est Victor qui nous a proposé The Swapper.
Oui, alors The Swapper, donc, c'est un jeu dont la musique a été composée par un certain Carlo Castellano. Et en fait, c'est un jeu qui nous met aux commandes d'un cosmonaute qui va aller devoir explorer une planète étrange. Et en fait, le jeu est très intéressant graphiquement parce que les personnages sont faits en pâte à modeler et il y a une ambiance qui est instaurée par les effets de lumière qui sont très mélancoliques, très étranges et toute une bande son, soit très mélancolique et assez triste au piano, comme dans le morceau que vous écoutez, soit beaucoup plus spatiale, ambiante, avec des notes qui sont très tirées. Voilà, c'est un jeu de puzzle qui joue essentiellement sur le fait qu'on peut créer des doubles. Ça révolutionne pas le genre de la plateforme puzzle, mais par contre c'est un jeu qui vaut énormément pour son ambiance, pour son atmosphère. C'est pas très cher en plus, je crois que c'est à 15€. C'est une bonne bouffée d'air frais, on va dire.
On va continuer avec un morceau qui s'appelle Gone Home, d'un jeu que je ne connaissais pas non plus. Un action RPG sorti sur l'Xbox Live en août 2012, puis sur PC en mai 2013. Le jeu s'appelle Dust an Elysian Tale. C'est notre invité Sirocco qui va nous en parler, puisque c'est toi, Sirocco, qui nous a proposé ce morceau.
Oui, exactement. Donc Dust, c'est un beat them all, exploration un peu. Un jeu d'aventure, grosso modo, qui ressemble beaucoup à Muramasa sur Wii. Alors, je me souviens pas spécialement des musiques de ce jeu, je sais qu'elles sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais alors, ce qui est génial avec cette musique que vous avez écoutée tout à l'heure, donc Gone Home, c'est vous terminez le jeu, donc c'est quand même une aventure relativement classique, plein d'interrogations au début, une montée en puissance et puis une conclusion entre guillemets spectaculaire, mais aussi un peu triste. Et ce qui est génial, c'est que ça termine par cette musique évidemment intégralement au piano, avec une mélodie très simple, extrêmement efficace. Et moi, à chaque fois, ça, quand j'ai terminé le jeu, ça fait partie de ces musiques que vous vous dites, un peu comme quand vous regardez la fin du Seigneur des Anneaux, vous vous dites, ah, c'est dommage, ça vous rappelle tous les souvenirs que vous avez eu en jouant. Et c'est, je trouve que pour ça, rien que pour ça, elle est très très réussie.
Une musique d'Alexander Brandon.
Je vais aller faire une recherche Wikipédia pendant la pause, parce qu'il me dit quelque chose, ce mec.
Donc on va écouter Gone Home, extrait du jeu Dust an Elysian Tale. Thank you. Dust An Elysian Tale, le morceau s'appelait Gone Home. Victor, t'as cherché donc du coup Alexander Brandon.
Ouais, et en fait, il me disait quelque chose, et en fait, c'est pas pour rien, parce que c'est le compositeur de Deus Ex et Deus Ex Invisible War. Donc c'est pas rien.
Notamment avec le thème d'introduction de Deus Ex.
Encore une fois, on va faire revenir un petit peu nos fils rouges hein, dans OSB. Donc il y avait Yokoshi Momura tout à l'heure. On va refaire venir nos principales ancres, on va dire, du podcast. C'est Zelda, la série Zelda. On a hésité avec plusieurs morceaux, parce que des morceaux piano, il y en a beaucoup dans Zelda. Et des très beaux. Et comme vous pouvez l'entendre, on a choisi un peu le morceau culte au piano maintenant de Zelda. C'est Midna's Lament, morceau de Zelda Twilight Princess, sorti en 2006 sur GameCube et sur Wii. Une musique de Toru Minegishi. Et il faut savoir que Twilight Princess, c'est assez rigolo parce qu'il a été présenté à l'E3 en même temps qu'Okami. Et que comme les deux jeux voilà, y a des phases avec des loups, on contrôle les loups, tout ça. En fait, les deux jeux ont été accusés de se plagier l'un l'autre. Donc, Okami accusé de plagier Twilight Princess et vice versa. Ce qui est quand même très con.
Bon, moi, je trouve Okami meilleur que Twilight Princess. Mais...
Ah, c'est deux jeux totalement différents à mon sens. Twilight Princess et Zelda, de manière générale, Sirocco, bon, Link to the Past à bloc, mais Twilight Princess, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as aimé?
Oui, Twilight Princess, je l'ai fait. J'ai bien aimé, même si je considère que c'est pas le début de la fin, mais quand même l'un des premiers Zelda paresseux, entre guillemets. Efficace, d'accord, mais paresseux. D'ailleurs, mais les musiques aussi, parce que même si celle qu'on écoute, c'est peut-être l'une des meilleures de l'OST. Les musiques, spontanément, je m'en souviens pas. Il y a des signes comme ça qui trompent pas trop. Et c'est comme il y a beaucoup de scènes de ce Zelda dont je me souviens pas. Faut que je refasse à l'occasion, mais oui, c'est quand même incontestablement un très bon jeu. Mais de là à dire que c'est le Zelda, non. Ça se voit d'ailleurs au niveau des musiques. La globalité des musiques, qui sont à mon sens inférieures à celles d'Ocarina of Time, de Majora's Mask et de Wind Waker. Où là, il y a eu quand même du très très gros niveau.
C'est vrai qu'il y a peut-être plus de musiques qui ont marqué dans les Zelda que t'as cité que dans Twilight Princess.
Je pense.
Twilight Princess, moi, c'est vrai qu'il y a Midna's Lament qui me revient en tête et le thème des plaines, et c'est à peu près tout en fait.
Ouais, après, il y a beaucoup de thèmes d'ambiance qui s'accordent bien avec l'environnement, mais en thème marquant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de musique qu'on retient après.
Twilight Princess a ce petit côté voilà, avec encore Zelda très au centre, le bon château, Ganondorf, tout ça, qui finalement rapproche beaucoup le jeu de ses prédécesseurs, notamment d'Ocarina of Time, dans le déroulement, on va dire, du jeu. Et ça joue un peu sur le fait que les musiques, on a l'impression de les avoir déjà entendues, alors que Skyward Sword, c'est un univers, même si ça reste très Zelda, avec toujours les mêmes temples et tout ça, mais c'est un univers un peu neuf, avec des musiques un peu neuves, et c'est vrai que Skyward Sword, c'est un peu plus peut-être marquant. D'ailleurs, on a hésité à vous passer un morceau qui s'appelle Fizz Gratitude, donc n'hésitez pas à l'écouter, Fizz Gratitude de Skyward Sword, qui est juste fabuleux également au piano. Et donc, on va continuer avec un morceau d'un jeu que je ne connaissais pas non plus, comme quoi c'est vraiment le podcast des découvertes pour moi. Je vous présente des choses.
Là, c'est une honte.
Ah, t'as pas honte.
Il paraît que c'est une honte, ouais.
Ah oui, c'est une honte.
Alors, un jeu qui s'appelle To the Moon. Le morceau qu'on va vous passer s'appelle Four River. Un jeu qui a été développé par Freebird Games en 2011 par un Canadien qui s'appelle Kangao. D'ailleurs, ce Canadien développeur du jeu est également le compositeur de la musique avec une certaine Laura Shigihara. Et moi, ce qui m'a interpellé en fait quand je fais un peu des recherches sur le jeu en découvrant que c'est Onink qui nous a proposé ce morceau, il n'y a pas vraiment de programmeur dans ce jeu, c'est développé sur RPG Maker. C'est quand même assez rare ça.
C'est ça.
Mais ça n'empêche pas de faire des bons jeux, la preuve.
Ouais, je vais parler un peu de To The Moon, qui est un peu un de mes coups de cœur de l'année. C'est un jeu qui a l'air de rien. Comme tu le dis, il a été développé sur RPG Maker, donc niveau graphiquement, c'est pas très beau. Mais la force du jeu repose exclusivement sur le scénario. C'est-à-dire que tout le reste peut être à oublier, je pense, dans le jeu. Le gameplay est très pauvre, hein. Pas beaucoup de liberté dans le jeu. Voilà, les énigmes sont super basiques, mais tout repose sur l'histoire qui est vraiment touchante et assez crédible. Donc en gros, pour faire le pitch, bon, il est pas évident à raconter, j'espère que je vais être assez clair. Donc elle se concentre sur John, qui est un vieillard sur le point de mourir. En fait, son regret dans la vie, c'est de ne pas avoir été sur la Lune. Donc pour réaliser son rêve, chose qui paraît impossible, il fait appel à une société fictive, enfin une société qui existe dans l'univers du jeu, dont le service est de réaliser les dernières volontés des vieux, enfin des vieux sur le point de crever.
Donc nous, on incarne deux scientifiques de cette entreprise qui vont pénétrer dans la mémoire de John pour la modifier. Donc pour modifier ses souvenirs, il faut qu'il remonte à la source et donc remonte dans ses plus vieux souvenirs lorsqu'il était enfant. Bon, je vais pas en dire plus, mais en gros, on va parcourir la vie de John en sens inverse, de la mort jusqu'à la naissance. Donc moi, j'ai bien aimé ce principe. Niveau narration, c'est assez intéressant. Alors, ça m'a fait penser au film... Benjamin Button, voilà, de Fincher. Ça m'a un peu rappelé, même si ça n'a pas grand-chose à voir dans le propos, c'est... Dans l'idée, c'est un peu la même chose. Le coup du rêve d'aller sur la Lune, c'est un peu un prétexte, mais un bon prétexte pour suivre la vie de John. Donc on va assister aux étapes importantes de sa vie, ses histoires d'amour, ses problèmes. On va petit à petit découvrir ses secrets, découvrir que tout n'est pas rose. L'histoire est assez complexe et surtout touchante comme rarement dans un jeu vidéo. Voilà pourquoi je conseille ce jeu à tout le monde, même si le gameplay, ou plutôt le non-gameplay, peut rebuter certains. Mais il n'est pas contraignant, donc on peut passer outre ce détail assez facilement.
Très bien présenté, et donc on vous propose d'écouter cette magnifique ballade au piano, comme l'indique de toute façon le thème de ce podcast, hein, le piano, To the Moon, le morceau s'appelle Four River. Vous êtes de retour sur Original Soundbloggers, ou plutôt nous, on est de retour, parce que vous n'avez pas vraiment quitté l'émission. Hein. Vous venez d'écouter Four River, le thème de To the Moon. Onink, encore quelque chose à rajouter sur ce jeu ?
Juste une petite précision sur la musique que vous venez d'écouter, qui est diégétique, c'est-à-dire qu'on l'entend, on l'entend dans le jeu évidemment, mais elle est jouée directement en jeu par des protagonistes. Elle a un rôle important dans l'histoire. Donc, Four River, c'est une musique qui est dédiée à River, qui est un personnage assez important. Donc voilà, il y a plusieurs morceaux diégétiques au piano qui sont dans le même cas, dans cette OST, et ça renforce l'implication du joueur, puisque même la musique est liée à l'histoire.
Bien, on va continuer avec encore une fois le retour de nos fils rouges. C'est vraiment le podcast, c'est un peu la rentrée pour eux comme pour nous finalement. On les avait laissés cet été un petit peu tranquilles, mais là on a envie de retourner les faire chier, un peu ces gens-là. Après Yoko Shimomura et après Zelda, Motoi Sakuraba, avec deux jeux hein, qu'on va vous passer là coup sur coup. Deux musiques de Motoi Sakuraba, la première que vous entendez en fond, c'est une musique de Golden Sun Dark Dawn, jeu sorti en 2010 sur Nintendo DS. En France, il s'appelle Golden Sun Obscure Horror. Troisième épisode de la série, après les deux épisodes GBA sortis en 2002 et 2003, qui étaient plutôt sympas, il faut le dire. Donc on entend Sadness and Despair, le thème de la mort d'un personnage. Ça porte bien son nom là pour le coup, tristesse et désespoir. Le piano exprime très très bien ce sentiment là, c'est un des meilleurs instruments pour ça. À part donner envie de vous suicider, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez joué à Golden Sun Dark Dawn?
Les deux premiers Golden Sun, enfin surtout le premier, à l'époque c'était gros coup de cœur. Et il y avait des super musiques, bien que la qualité sonore de la GBA était assez dégueulasse, les musiques étaient vachement bien, très typées. Et Dark Dawn, c'est un jeu que j'attendais parce que c'est quand même une licence qui a un certain cachet, qui est pas exceptionnel mais qui est sympa. Le problème, c'est qu'on a l'impression de jouer au même jeu, quoi. C'est un peu ça le souci. Quand les RPG durent 60 heures, vous avez intérêt à bien les rythmer, à faire des musiques, à faire des renversements de situation. J'ai pas été spécialement séduit par ce Golden Sun auquel j'ai arrêté de jouer d'ailleurs. Mais les musiques sont pas mal. Celle-ci est pas mal. J'en avais pas le souvenir d'ailleurs. Elle est pas mal, bien qu'un peu simple. C'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher au piano, hein. C'est que parfois les musiques paraissent très simples. Elles peuvent être magnifiques. Mais elles peuvent aussi être complètement fadasses. Et sans dire que cette musique est molle ou réussie, elle est quand même pas non plus extraordinaire, je trouve.
Oui, c'est un thème de décès pas très recherché pour autant, je pense. Enfin, après, voilà, c'est dans la veine d'un peu de ce que Motoi Sakuraba est capable de nous fournir.
Un peu standard, on va dire.
Un peu standard, en tout cas pour lui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé de sa propension à un peu nous servir toujours la même soupe dans 3 ou 4 schémas de morceaux différents et il les applique un peu tout le temps. Mais c'est vrai qu'il a cette tendance à un peu nous sortir toujours la même chose. On va continuer, on va essayer de voir si Motoi Sakuraba était un peu plus inspiré sur le prochain morceau qu'on va écouter. Un morceau d'un jeu qui s'appelle Eternal Sonata. Et déjà, musicalement, ça part bien hein, dans le synopsis, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2007 sur Xbox 360, puis sur PS3 en 2009. Et donc c'est un jeu qui est construit et imaginé autour de la vie du pianiste Frédéric Chopin. Donc déjà, musicalement, on se dit il va se passer un truc. On va écouter un morceau qui s'appelle Pyroxene of the Heart, c'est Onink qui nous a proposé ce jeu.
Et oui, donc comme tu l'as dit, Eternal Sonata, c'est un RPG japonais, donc basé sur la vie de Frédéric Chopin. Ils l'ont fait, donc on a un Chopin avec des cheveux roses, qui pousse des couinements et qui balance des boules de feu. Non, plus sérieusement, ils ont épargné le personnage, mais ça reste quand même dans l'ensemble pas joli. Donc déjà, si vous aimez pas FF13, ne vous approchez pas d'Eternal Sonata. C'est un jeu qui atteint des niveaux de niaiserie assez stratosphériques. Les persos sont d'un cucu jamais vu. Le gameplay, c'est on va tout droit. Et pourtant, c'est pas un jeu qui a mauvaise réputation. Hein. Enfin, il est souvent considéré comme un RPG relativement correct, alors que c'est juste un sous Tales of. Quoi. Enfin, c'est mon avis en tout cas, mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment chiant. Mais bon, comme tu l'as dit au début, on se devait quand même de parler du jeu dans cette émission, car qui dit Chopin dit piano forcément. Donc on retrouve plein de pistes du musicien dans le jeu, ça c'est pas mal. Mais les autres ont été composés par notre ami Motoi Sakuraba, qui s'en sort quand même bien, même s'il souffre un peu de la comparaison, forcément.
Bah, d'ailleurs, oui, vous avez constaté que c'est un peu... Voilà, c'est du Motoi Sakuraba dans le texte, avec des harmonies, des orchestrations qui peuvent un peu faire penser justement aux classiques de l'époque de Chopin. Donc, le morceau s'appelle Pyroxene of the Heart, et le jeu Eternal Sonata. Faites-vous l'avis que vous voudrez sur ce morceau d'Eternal Sonata, donc Kyroxen of the Heart, qui referme un petit peu cette parenthèse sur Motoi Sakuraba. Est-ce que ça vous aura plu quand on le repasse ou pas? Bah, vous nous direz, sur, que ce soit sur Gameblog, sur iTunes ou sur Podomatic. J'en profite aussi pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, pas forcément sur Gameblog, mais de plus en plus nombreux en tout cas sur iTunes, et ça fait plaisir. On va continuer avec, encore une fois, bah tiens, comme c'est bizarre, un jeu indépendant que nous a proposé Victor. Là, ça me loupe, ça, je m'y attendais pas, tu vois. Donc le jeu s'appelle Auditorium, un jeu, un puzzle game musical, originellement jeu Flash, sorti en 2008, puis sur le PSN en 2010, et enfin sur Steam un peu plus tard. Le morceau s'appelle Crystal Auditorium, apparemment bon jeu.
Très bon jeu, très bon puzzle game. Alors en fait le principe c'est il y a des fluides, on va appeler ça des fluides, c'est des espèces de courants en fait, de couleurs, qu'il va falloir diriger avec des flèches, donc vous allez pouvoir augmenter la portée en gros, des flèches, des sphères qui vont faire graviter autour en orbite, des sphères qui vont faire accélérer les rayons, et en fait il va falloir faire passer tous ces rayons devant des espèces de balises qui vont les capter. Et en fait, par exemple, dans un niveau où vous allez avoir trois balises à compléter, et il va falloir trouver le chemin avec vos flèches pour orienter les rayons de telle manière à ce qu'ils passent tous en même temps dans les balises. Je sais pas si je me fais comprendre.
Ça va aller.
Au pire, vous irez voir des vidéos du jeu. Et en fait, ces balises produisent des sons. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de chaque niveau, vous finissez une phrase du morceau final, et à la fin de chaque monde, entre guillemets, vous avez le morceau de fin. Et plus ça va, plus ça devient dur. Quand je dis dur, c'est vraiment très très dur. Il y a des niveaux, je les ai réussis, mais juste parce que j'avais laissé une flèche totalement random au plein milieu pour comprendre comment j'arrivais à orienter les flèches. C'est diabolique. C'est diabolique, mais en même temps, voilà, il n'y a pas beaucoup d'effets sonores, donc c'est très relaxant. C'est assez épuré dans le design, ce qui fait que vous pouvez jouer en écoutant autre chose en fond, par exemple.
Bah, le jeu est même dispo en flash gratuitement, dans une version un peu plus soft où il y a moins de niveaux et c'est un peu moins dur, mais moi je m'en suis contenté parce que déjà à la fin je galérais.
Enfin, je trouve que ça se remarque en fait dans ce morceau Crystal, ça fait vraiment musique évolutive justement, on peut bien s'imaginer que la musique évolue avec le jeu. D'abord la mélodie au piano et puis cette mélodie qui revient un peu plus construite avec un peu plus de monde pour la soutenir. Ça appuie bien justement je trouve ce gameplay dont tu nous parles Victor.
Ouais, c'est un jeu compliqué comme ça, par petites gouttes, quand on n'a pas grand chose à faire.
Donc Auditorium, jeu à faire, hein, allez-y, lancez-vous, que ce soit en flash ou pas. On va passer à un jeu qui, lui, n'est pas en flash, mais qui a bien marqué son monde aussi. Hein. On en a déjà parlé d'ailleurs de ce jeu, un survival horror sorti en 2007, qui s'appelle Bioshock, il y a encore cette histoire de bio, de bio. Vous trouvez que c'est vraiment un survival horror ou pas?
Non, pas du tout. Enfin, moi je trouve que c'est un FPS bourrin avec une putain d'ambiance, mais voilà. J'ai même pas ça du survival horror.
Très sombre, très lugubre.
Ouais, ouais, ça reste quand même de la survie, en quelque sorte.
Tout seul, dans une cité déchue.
Moi j'ai du mal à voir survival horror et bourrin en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Donc on va écouter une pièce de piano. Alors là, celle-là, elle est déjà toute trouvée. Le morceau s'appelle Cohen's Masterpiece. Tout trouvé, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un morceau qui est interprété dans le jeu par un pianiste, Sander Cohen. Alors pour rappeler un petit peu l'univers de Bioshock, hein, c'est dans une ville sous-marine qui s'appelle Rapture, dans les années 50, je crois 59 si je dis pas de bêtises. Rapture c'est une utopie un peu travailliste où chacun peut faire ce qu'il veut, y compris en faisant fi des codes moraux, de l'éthique qui règne en surface. Les habitants de Rapture découvrent l'Adam, qui est une substance qui permet d'augmenter ses capacités mentales et physiques, de développer des pouvoirs assez incroyables. Et les habitants de Rapture sont vite rendus fous par l'Adam, dont ce Sander Cohen, donc ce pianiste, qui est un génie artistique un peu autoproclamé certes, mais qui a un certain sens de génie, et qui devient sadiquement impassible à la mort et à la souffrance de ceux qui l'entourent lors du déclin de Rapture. On le voit apparaître dans la forteresse Folâtre, ce bonhomme, et tout ce qui se trouve dedans, en fait, c'est selon lui une forme d'expression de son art, comme les mannequins congelés dans de l'azote qui ont été en réalité assassiné puis mise en scène, donc le mec c'est bien un barjo, artiste incompris, voilà. Et donc on va écouter un solo de piano qui dure à peu près 3 minutes, qui est donc interprété par Sander Cohen dans le jeu. Et moi, alors, j'avais écrit ça sur un post de blog, un des premiers posts de blog que j'avais fait sur le Poulpi Blog, où je disais que j'imagine très bien un mec voilà, totalement dingue, totalement dément, qui est en train d'exprimer de la rage, de la mélancolie, des sentiments très très forts, mais totalement démentiels, quoi, avec un artiste voilà, qui est au bout du rouleau. Quoi. Donc ça, c'est un morceau qui semble un peu vouloir raconter son histoire. Voilà, bref, je vais pas rentrer dans les élucubrations comme ça. Qui a fait BioShock? Qui a rencontré Sander Cohen? Qui l'a buté? Qui l'a laissé vivre?
Bah, moi j'ai fait BioShock, je l'ai refait encore il y a pas si longtemps que ça. Et ouais, Sander Cohen, c'est un des personnages marquants du jeu, avec Andrew Ryan, Atlas, tous ces personnages aujourd'hui mythiques. Donc ouais, comme tu l'as dit, le truc de Sander Cohen, c'est les œuvres créées à partir de cadavres humains, donc c'est quand même quelque chose d'assez glauque. Il va demander aux joueurs d'aller tuer des gens afin de prendre en photo leurs cadavres et de constituer son œuvre finale, le chef-d'œuvre de Sander Cohen. Donc une fois qu'on a fait tout ça, le chef-d'œuvre est achevé, on a une séquence finale avec le personnage où se joue cette super musique. Voilà, c'est une des scènes cultes du jeu, comme celle du club de golf, ça rappellera des souvenirs à certains, ou celle avec le dentiste au début.
C'est pas un chirurgien esthétique?
Oui, un chirurgien, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au dentiste, parce que j'ai peur des dentistes.
Sirocco, tu l'as fait toi, BioShock?
Oui, j'ai fait le jeu. J'ai fait une partie du jeu, et puis mon PC a décédé entre-temps, donc j'ai dû refaire une sauvegarde, et comme j'ai une certaine difficulté à jouer au jeu à la première personne, j'ai pas continué, à mon grand regret d'ailleurs, parce que j'avais fait l'effort de me plonger dedans, mais malheureusement, je suis pas allé au bout.
On pose pas assez cette question aux invités. Tu joues à quoi en ce moment, Sirocco, d'ailleurs?
À Xenogears et à A Link to the Past.
A Link to the Past, de toute façon, je pense que t'arrêteras pas tant que tu seras pas passé
sous les 1h50, on verra après. Et Xenogears, parce que je l'ai été saucé récemment par le jeu et je suis en train de me le faire.
Ok, donc on va écouter cette musique de BioShock, Cohen's Masterpiece, cette pièce de piano absolument fantastique, aussi fantastique que totalement délirante et démente. On se retrouve après sur OSB, à tout de suite. Thank you. le piano dans ce qu'il a de plus frénétique, de plus puissant, de plus intime, avec ce morceau, donc Cohen's Masterpiece, extrait de la BO de Bioshock. Vous écoutez toujours OSB, le 8e épisode, toujours consacré au piano. Et quand on parle de piano, les fans de Final Fantasy pensent peut-être à ce morceau qui est introduit à un jeu qui est un peu...
C'est le running gag du...
C'est le running gag de Gameblog, un peu ce jeu Final Fantasy X. Vous écoutez le morceau d'introduction de Final Fantasy X qui est tout Zanarkand. Zanarkand qui est donc cette ville dans laquelle on commence le jeu. D'où est originaire Tidus, le personnage principal qui est sujet à controverse. Dédicace Lead, hein, un jour on t'invitera sur OSB, c'est promis. Donc Final Fantasy X, pas le meilleur Final Fantasy de la vie d'à peu près tout le monde ici. Hein.
Oh, vous êtes dur quand même. Oh, c'était le début de la linéarité dans les Final Fantasy, où il y avait quand même beaucoup moins de liberté, faut l'avouer, même si c'est déjà quelque chose qui existait dans le 9. Hein. Mais ça, les gens ont tendance à l'oublier. Mais c'est quand même un FF avec un super système de combat, je trouve. Avec des renversements de scénario pas si prévisibles et quand même bienvenus. Bon, après, il faut adhérer à... Je trouvais une profondeur dans la rédaction des personnages qui est un peu légère, un peu superflue, même s'il y a quand même de bons passages. Pour moi, ça fait partie quand même des bons Final Fantasy. Même si je préfère, sur cette génération de consoles, je préfère quand même le 12, mais ça, c'est un avis personnel.
Le problème principal avec FF10, on l'évoque souvent quand on parle de, justement, des défauts de FF10, c'est vraiment le chara-design et même les personnages qui sont un peu affreux. On a Seymour avec sa coupe de cheveux en porte-manteau bleu, qui est une aberration du chara-design, quoi, totalement. Tidus avec son fameux short asymétrique. Voilà. Après, moi, j'ai également beaucoup aimé Final Fantasy X. Le système d'évolution en sphérier que beaucoup de monde a abhorré parce que soi-disant trop compliqué et trop inutilement compliqué, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
De même, ouais.
Après, moi voilà, c'est un jeu, comme tu le disais, Sirocco, scénaristiquement, moi c'est pas un jeu qui m'a choqué, au contraire, c'est vraiment, j'ai trouvé ça bien amené, même si voilà, bon, les personnages, ça reste le défaut principal, mais moi ça reste un jeu qui m'a plu. Et pour rester un peu sur ce tout Zanarkand, donc qui ouvre le jeu, on en a beaucoup parlé l'an dernier, c'est un morceau qui s'est retrouvé, on ne sait pas trop comment, en Konami Code, sur le site internet d'Eva Joly pendant la campagne présidentielle de 2012.
Le décalage entre l'élection présidentielle et l'aspect lyrique très prononcé de cette musique, là, le décalage est vraiment trop fort. Surtout quand on connaît l'affection qu'on a pour les personnalités politiques en France. Non, moi je trouve que ça passait pas du tout.
Peut-être que Eva Joly porte des shorts asymétriques.
Peut-être.
Oui, possible. Mais autant tu vois, je trouve que le mini-jeu sur le site de Bayrou est extraordinaire, autant là je trouve que j'ai pas compris, quoi. Je sais pas, quoi.
Un peu un autre défaut finalement de ce Final Fantasy X par rapport aux autres Final Fantasy, notamment au premier, entre guillemets, en tout cas génération Super NES PS1, voilà, la BO, quoi. Tout Zanarkand, c'est un morceau qui marque. Il y a d'autres morceaux comme ça, comme les thèmes de combat ou comme la prière. Mais sinon, c'est vrai que c'est une BO qui passe totalement en travers du jeu.
Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que, voilà, moi dans mes classements des musiques du FF, je trouve que c'est la troisième pire. Après FF10-2 et FF13-2, elle est fade, quoi. Même les BO de MMO, des MMO FF, sont plus dynamiques, plus variés. Là, y a pas de morceau qui m'a marqué. Je trouve que Uematsu est pas à son meilleur niveau. Je trouve que Amoizu est pas aussi bon que dans FF13. Ça m'a fait un peu mal, j'avoue.
C'est particulièrement dommage. Je trouve que j'ai un peu le même avis que Vic. C'est une BO qui, sur le papier, est quand même correcte. Hein. Y a pas de souci. Il y a beaucoup de piano, quand même. Plus que dans les autres compositions de Uematsu, mais le problème c'est que c'est quand même Uematsu, et Uematsu c'est un spécialiste de la mélodie. Ce type avec Mitsuda a fait un nombre de mélodies qu'on connaît dans le jeu vidéo qui est monstrueux. Et ce qui est dommage, c'est que donc dans FF9 il y en a au moins une quinzaine dont je me souviens, dans FF8 il y en a aussi beaucoup, FF7 je vous en parle pas, FF6 alors là par contre on atteint les sommets, Chrono Trigger, enfin bon, il a fait des mélodies très très marquantes, et dans celui-là il y en a vraiment, les comptes sur les doigts d'une main, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Surtout qu'en plus, on parle de tout Zanarkand, qui est pour moi, comme je disais tout à l'heure, le piano, la simplicité, ça peut amener du bon et du mauvais, et je trouve que cette musique, elle est mielleuse, elle est, je sais pas, elle est un peu vomitive, ça pue le sentiment, moi j'apprécie pas du tout. C'est déjà un jeu où la relation entre le héros et l'héroïne est quand même relativement présente et parfois un peu envahissante. mais la musique accentue le trait et je trouve que ça passe pas super bien.
Ça peut rebuter en tout cas les fans de Final Fantasy, on est bien d'accord là-dessus.
Je trouve que c'est une manière d'aborder l'amour entre les personnages, l'amitié, qui selon moi pas le plus réussi.
Non, mais c'est con parce qu'en plus on va continuer dans cette veine justement de Final Fantasy X et de piano avec la suite naturelle du jeu Final Fantasy X-2 puisqu'on va diffuser un morceau qui s'appelle Eternity Memory of Light Waves. C'est notre invité Sirocco qui nous a proposé ce morceau. Pourquoi un morceau de FF10-2 en fait, Sirocco, puisqu'on parle des BO ratés de FF10?
Alors, il y a quelque chose qui est marrant, c'est que bon, tout le monde va cracher sur FF10-2, qui est fondamentalement pas un jeu exceptionnel, pour pas dire médiocre, mais qui est un jeu déjà que j'ai bien aimé parce qu'il y a un super système de combat.
J'ai l'impression que c'est la constante dans les FF, c'est-à-dire quand ils font l'univers, ils font un putain de système de combat.
C'est ça.
Quand ils font le level design, ils font un putain de système de combat. Et quand ils réussissent l'inverse, t'as l'impression que t'as des conventions. Ils ont une feuille, ils cochent, ils font linéarité, super système de combat.
L'OST de FF10-2 est globalement à 95% à jeter. Hein. C'est des musiques. Sur Gamecult, ils avaient mis quoi? Les musiques Liebig, enfin, ces musiques de pub, elles sont pourraves. Il y a de la J-pop. Alors, la J-pop, je veux bien qu'il y ait des gens qui aiment bien ça, mais bon, la majorité du temps, c'est quand même relativement indigeste. Pour les Européens, je parle. Mais il y a deux thèmes que je retiens systématiquement. C'est celui d'introduction, qui s'appelle Memory of Light Waves, que je trouve super joli, très réussi, en plus avec différentes montées, des descentes, des moments plus intimistes, des moments où il y a plus de lignes mélodiques. Enfin, je la trouve très réussie. Et une deuxième qui est le Yuna's Theme, la Yuna's Ballade, qui là, par rapport à Tous en Arcane, est justement très personnalisé. C'est le thème de Yuna et il colle bien au personnage. C'est un personnage qui se pose plein de questions, qui recherche plein de vérités, et la musique montre un peu cette incertitude. C'est pour ça que je la trouve très réussie, bien que très simple pourtant, avec une ligne mélodique, parfois deux, mais ça fait le travail quoi. Et c'est pas Uematsu qui est derrière, mais sinon 95% de l'OST est à jeter, hein. Je vous le dis tout de suite.
Donc justement, voilà, on va pas écouter la Yuna's Ballade, mais le deuxième morceau que tu as cité, donc le morceau d'introduction de FF10-2, Eternity Memory of Light Waves, et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Final Fantasy X-2 Eternity Memory of Light Waves, c'est le morceau que vous venez d'écouter. Encore une fois, une belle balade au piano, et le piano, on continue d'en parler dans ce 8ème épisode d'OSB consacré à cet instrument, avec toujours en ma compagnie Onink, Vicpor et Sirocco, notre invité. Sirocco, toujours là, ça va ?
Oui, ça va, toujours la forme.
Bien, on va parler maintenant d'un RPG sorti sur la Wii en 2010. J'avoue que j'ai totalement honte, sachant que j'aime beaucoup les RPG, et notamment ceux sur la Wii, de pas connaître ce jeu. J'ai vraiment honte. Des musiques de Riei Saito, le jeu s'appelle Fragile Dreams. Vous écoutez donc en ce moment en fond un morceau qui s'appelle To All People, et juste avant l'enregistrement, je faisais la remarque à mes camarades que quand la première fois que j'ai écouté ce morceau, j'ai eu l'impression d'entendre un début qui était exactement le thème de la jungle de Machna dans Xenoblade Chronicles, qui est pourtant sorti après, et la suite du morceau, j'ai l'impression d'entendre l'intro de Chrono Cross, mais totalement quoi, tu prends un morceau, oui. Tu prends l'autre, et paf, tu les assembles.
C'est hallucinant, quand il me l'a dit, j'ai eu exactement le même sentiment, c'est la même mélodie quoi.
Ouais, c'est, pas, bizarre,
c'est troublant.
Si justement, Victor, parle-nous-en un peu de Fragile Dreams, parce que moi j'ai envie d'en entendre un peu parler.
Bah, j'y ai pas joué en fait, le truc, c'est que je voulais beaucoup le faire parce qu'il m'avait beaucoup attiré. Et en fait, j'ai pris Muramasa à la place, Muramasa que je n'ai absolument pas aimé, donc du coup j'étais un peu deg. Et en fait, Fragile, c'est un mélange entre du RPG et du Survival Horror. Du Survival Horror gentil, hein, c'est pas vraiment effrayant. Mais il y a une ambiance assez sombre comme ça. Et c'est un jeu qui, si techniquement il n'est pas extraordinaire, je trouve qu'il a une direction artistique au niveau des ambiances qui est assez géniale. Même si au niveau du chara-design, ça reste très japonais dans le style. Et pour en savoir plus, je vous conseille le test de Luciole. Sur Gameblog, dans la section test, c'est très très bien écrit, ça résume très bien le jeu, ça donne très envie, donc allez faire un tour.
Il me semble que c'est un jeu qui avait fait parler de lui sur Wii, comme tout, entre guillemets, tous les jeux un peu originaux sur Wii. Et il y en a d'ailleurs pas mal quand on y pense, mais je crois qu'il avait des gros soucis de maniabilité, avec des caméras, enfin des problèmes techniques comme ça, très très gênants pour le jeu.
Il me semble. Ça m'a pas choqué, moi.
C'est les arguments qui ressortaient derrière le côté original, il me semble.
Ah, ouais. Mais bon. C'est un peu lourd quand même au niveau des maniements. C'est vrai que c'est dommage, ça plombe un peu le jeu. Parce que Fragile, il fait partie de ces jeux qui ont de très bonnes idées, mais qui ont eu mauvaise presse à cause de certains défauts techniques fatals. On peut citer des jeux dans le même cas comme Nier ou Deadly Premonition. Voilà, c'est ce genre de jeu avec une ambiance super travaillée, super d'univers, mais qui est gâché par quelques défauts un peu à la con qui auraient été gommés s'il y avait eu plus de moyens pour développer le jeu.
Bien, donc Fragile Dreams, voilà, ça c'est dit. Un morceau donc, qui s'appelle To All People, vous ferez vous-même la comparaison avec Xenoblade ou Chrono Cross, en tout cas. Très belle pièce de musique classique, hein, magnifique piano, encore une fois, des instruments pour accompagner à côté. On va continuer avec un compositeur dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé, je crois qu'on n'en a pas encore parlé d'ailleurs, et pourtant c'est quelqu'un qui a eu un travail assez colossal, il a été très prolifique comme compositeur. Donc le monsieur s'appelle Tommy Tallarico, il a composé donc la musique qu'on va vous diffuser maintenant. Le jeu s'appelle Advent Rising, jeu sorti en 2005 sur Xbox et sur PC, et le morceau s'appelle Greater Light, c'est la musique des crédits hein, d'Advent Rising. Tommy Tallarico, c'est pas donc le dernier des clampins, c'est pour la petite histoire le cousin de Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith. En tout cas il est connu pas en tant que cousin du chanteur d'Aerosmith, mais en tant que compositeur très prolifique, donc pour Earthworm Jim notamment, pour Prince of Persia, pour Metroid Prime, pour Cool Spot, pour Unreal Tournament et pour tellement d'autres jeux. Vous allez sur son site web, il y a 3 écrans, 4 écrans, c'est hallucinant.
Il est aussi connu pour le Video Games Live qu'il a organisé avec c'est Jack Hall. Je vous conseille d'aller voir le DVD où il est. C'est un très très bon guitariste, Tallarico. Et il y a des reprises notamment des thèmes de Castlevania où le mec est complètement à fond, enfin, c'est génial.
Le thème des crédits d'Advent Rising, comme je le disais, chanté par Charlotte Martin, qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, est américaine. Ah. Très belle voix appuyée par un piano en guise de nappe. Très beau morceau, absolument splendide, vous allez l'entendre tout à l'heure. Pour vous parler un petit peu d'Advent Rising, pour mettre un peu le contexte, en fait, c'est un jeu qui met en scène l'arrivée de deux types d'aliens qui s'appellent les Auréliens et les Seekers dans la vie de l'humanité. C'est un jeu qui s'oriente autour d'une invasion apocalyptique face à laquelle les humains devront répondre en s'alliant à une autre race extraterrestre, un peu plus sympathique quand même, un total insuccès critique et commercial, donc c'est quand même pas de bol, qui n'a pas permis à la suite prévue sur PSP de voir le jour. Et pourtant, malgré cet insuccès, c'est un jeu qui a été scénarisé pour un comic par l'auteur de science-fiction Orson Scott Card. Vous voyez, il y a un comic en 5 tomes d'Advent Rising qui est sorti entre 2005 et 2006. Mais c'est pas le comic qui nous intéresse, c'est donc le jeu avec le thème des crédits d'Advent Rising. Le thème s'appelle Greater Lights et on se retrouve après pour clore cette émission d'Original Soundbloggers, Advent Rising Greater Lights. Advent Rising, donc Tommy Tallarico à la composition, Charlotte Martin au chant, plutôt Charlotte Martin, puisqu'elle est américaine. Le morceau s'appelait Greater Lights, c'était le thème de fin de crédit d'Advent Rising. Et on va clôturer cette 8e émission d'Original Soundbloggers, qui était centrée autour de l'instrument du piano. Et on va continuer, justement, vous l'entendez, ce piano en fond, avec le thème, le main theme, le thème principal de Parasite Eve, sorti en 1998. Et histoire que la boucle soit bouclée, on a commencé avec cette compositrice, on termine avec Yoko Shimomura, encore, toujours. On se lassera jamais de la diffuser. Enfin, à un moment donné, on pourra plus parce qu'on aura plus d'idées, mais à chaque fois qu'on fait un thème où on peut passer un de ces morceaux, ça passe toujours très très bien. Moi personnellement j'ai pas fait Parasite Eve, donc je vous laisse en parler.
Moi j'y ai pas joué mais je connais un peu le jeu, donc avant que ce soit un jeu d'action sur PSP, que certes d'assez bonne facture, Parasite Eve était avant tout un survival horror mêlé à du RPG avec notamment un système de combat un peu à la Vagrant Story avec un cercle qui apparaît autour du personnage où on sélectionne les ennemis et les attaques. Donc c'était un jeu plutôt couillu de la part de Square dans un univers contemporain, une histoire plutôt bien menée avec une des héroïnes fortes du jeu vidéo, la charismatique Aya Brea, comme tu l'as dit, du Shimomura, qui a composé une œuvre un peu plus intimiste pour ce jeu. Beaucoup moins de thèmes forts ou grandiloquents, mis à part ce thème principal.
On va, ça y est, on va maintenant se quitter, c'est terminé. On va remercier, comme chaque mois, Onink et Victor de nous avoir consacré quelques heures dans le mois. Merci les gars, encore une fois, d'être là. Encore merci de nous avoir écoutés, messieurs, dames, en espérant que vous soyez là pour le 9e épisode et en espérant que vous ayez apprécié, parce que nous on a énormément apprécié, la compagnie de notre invité Sirocco. Merci beaucoup Sirocco d'avoir accepté de venir sur OSB.
C'était un grand plaisir, c'était vraiment très sympa.
Merci. En tout cas, on espère que Music Maestro reprendra incessamment sous peu, parce que ça nous faisait plaisir d'avoir des collègues un petit peu sur Gameblog aussi.
Ouais, y a pas de souci sur Twitch. Ouais. On va essayer de se refaire ça bientôt. Là, c'est plus des connes et tout, mais c'est sympa. Il ouais. Y a quand même la musique des jeux vidéo et quand même de quoi dire, donc pourquoi pas en faire des casts. Ouais.
Comme chaque mois, je vais terminer en disant que vous pouvez nous suivre sur Gameblog, donc sur mon propre Gameblog, celui de Poulpi Blast. Vous pouvez nous suivre sur Podomatic, Original Soundbloggers, ou encore sur iTunes. Vous tapez Original Soundbloggers dans la barre de recherche de l'i Store et ça tombe tout seul, c'est gratuit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous abonner. Donc c'était le 8e épisode, le 9e ce sera début octobre, vous vous en doutez. Le thème, on peut déjà vous le donner, ce sera sur l'espace. A très bientôt, on va quand même se quitter avec un dernier morceau. Un morceau absolument splendide, moi j'ai vraiment adoré, d'un jeu sorti chez nous sur PS2 en 2006. Drakengard 2, le morceau s'appelle Fate. Alors c'est assez marrant, le nom japonais, c'est, pour moi il veut absolument rien dire, c'est Dragon Dragoon 2, Love Red Ambivalence Black. C'est particulier, c'est DG. Donc Dragon Dragoon, voilà le nom japonais de Drakengard. Moi je connaissais la BO du premier Drakengard qui est très particulière, très très marquante. Elle a vraiment une patte très définie. Quand on entend un morceau, on sait que ça vient de ce jeu-là. C'est assez particulier, c'est du classique un peu... On a l'impression qu'il est joué à l'envers, c'est très bizarre. Des musiques de Takayuki Ayara et de Nobuyoshi Sano, c'était compliqué à dire. En tout cas, pour les musiques du premier, c'était eux. Pour le deuxième, Onink, c'est peut-être toi qui pourras nous en parler.
Bah, les musiques du deuxième, c'est vrai qu'elles sont un peu plus conventionnelles que celles du premier. Ouais, le premier, comme tu l'as dit, c'est très bizarre. Voilà, c'est, y a des sonorités assez étranges. Là, dans le deuxième épisode, c'est de la musique classique, avec beaucoup de violon, beaucoup de piano. Voilà, donc les Drakengard, c'était des actions RPG aux histoires assez sombres, assez cruelles, poésie macabre, avec beaucoup de séquences un peu choc. Certains trouvaient ça carrément de mauvais goût. En tout cas, ça ne l'est pas sur le plan de la direction artistique et des musiques, qui sont vraiment de qualité.
Donc on vous laisse avec ce morceau Fate de Drakengard 2, juste parfait je pense pour terminer ce podcast, tant ce morceau est complet et beau. On se retrouve le mois prochain en octobre pour un nouvel épisode d'Original Soundbloggers. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.
Ciao,
wesh.
Ciao tout le monde.